Zoom sur la Bible, c'est aujourd'hui une collection de 4 ouvrages destinés aux enfants, une série qui n'a pas fini de se multiplier. Son auteur et créatrice nous arrive de Montauban. Bonjour Céline Gauthier.
Bonjour Isabelle Duché.
Vous étiez intervenue l'année dernière sur Radio Présence dans le cadre d'une campagne de financement participatif pour lancer votre premier ouvrage. Un an plus tard, c'est le tome 4 de cette série sur la Bible qui vient de sortir. Racontez-nous le message que vous voulez faire passer à travers ces petits livres illustrés.
Eh bien, écoutez, ces petits livres illustrés ont vocation à transmettre quelque chose aux enfants, que ce soit la foi, si on est croyant, transmettre notre foi, juste, douce, et transmettre notre culture générale si nous ne sommes pas croyants, puisque les histoires de la Bible sont effectivement le fondement de notre civilisation judéo-chrétienne. Donc, il y a énormément de choses à envisager quand on ouvre un ouvrage de la Bible.
À qui ces livres de la collection Zoom sur la Bible sont-ils destinés ?
Alors justement, ça fait tout à fait le lien avec la question d'avant, ce sont des ouvrages que je veux tout à fait polyvalents. C'est-à-dire que l'idée, c'est déjà de s'adresser aux enfants de 4 à 9 ans et à leurs parents, au passage. Puisque quand on lit une histoire du soir, souvent en tant que parent, on profite autant de l'histoire que les enfants.
C'est vrai.
Voilà, et donc l'idée, c'est d'avoir un ouvrage polyvalent pour permettre aux familles ou aux foyers croyants et non croyants de découvrir ou de se réapproprier la Bible.
Ces ouvrages s'adressent donc aux enfants, vous l'avez dit, principalement entre 4 et 9 ans, mais aussi à leurs parents. Vous avez dit qu'on n'était pas obligé d'être chrétien, d'être croyant pour lire un petit ouvrage sur la Bible. Et pourtant, ça n'a pas dû être facile pour vous de toucher un public aussi large, parce qu'il y a peut-être un langage qui peut être adapté à un public ou à un autre. Du coup, quel langage vous utilisez pour vous adresser à tous, petits et grands, croyants ou non ?
Ce que vous dites est tout à fait juste. Effectivement, dans le vocabulaire et dans le monde même des croyants, nous avons un vocabulaire qui peut paraître difficile d'accès ou créer une barrière pour ceux qui ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits, et dont je fais partie d'ailleurs. Et c'est pour ça que lorsque j'ai voulu commencer à écrire ces livres, j'ai pensé à lever cette barrière. C'est-à-dire, mon idée, c'est de transmettre des notions justes avec des mots simples et accessibles à tous. Si bien que lorsqu'on lit les livres, si on est pratiquant, croyant et qu'on a des années de catéchisme derrière nous, on va reconnaître cette notion immédiatement. Et si on n'a pas fait ces années de catéchisme, on va comprendre cette notion, même si on n'a pas le terme qui va bien avec.
Est-ce que ça veut dire que vous utilisez un vocabulaire qui est proche des mots de la Bible ? Ou est-ce qu'il y a une certaine naïveté, un certain enjolivement aussi pour que ce soit accessible aux enfants ? Ou au contraire, vous vous en
Alors,
préservez ?
Quelque part entre les deux. C'est-à-dire que d'une part, alors, ceci dit, il n'y a jamais d'enjolivement. Le but du jeu, c'est d'être absolument fidèle aux valeurs et aux messages du texte. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, dans le vocabulaire choisi, il n'est jamais naïf, puisque mon idée, c'était, j'ai une petite formule qui dit on ne va pas insulter l'intelligence des enfants. Les enfants, à cet âge-là, sont très demandeurs. Et quand on s'adresse à eux avec un message un peu trop naïf, ils le voient tout de suite et se désintéressent du sujet. Donc, l'idée n'est pas d'être naïf, mais de ne pas non plus être... d'avoir un vocabulaire trop travaillé qu'il ne pourrait pas comprendre. Donc un mot juste, adapté à l'âge de l'enfant, qui va traduire le message. Et quand certains mots font vraiment un écho très particulier à la Bible, je le place quand même si c'est un mot qui est très spécifique à la Bible.
Alors raconter un épisode biblique conforme au texte d'origine, ce n'est pas forcément évident. Hein, on le disait, le risque serait donc d'édulcorer ou de l'enjoliver. Comment vous vous y prenez pour rester fidèle aux écrits bibliques ? Est-ce que vous avez une formation particulière ? Est-ce que vous êtes théologienne par exemple ?
Alors je ne suis pas théologienne. Ma capacité en fait est de réussir à lire énormément d'ouvrages, d'écouter aussi énormément de conférences qui viennent donc de théologiens, d'exégètes. Et donc je lis l'ensemble de ces ouvrages et je me forme aussi. Et qui me permettent en fait de comprendre les messages de la Bible et de pouvoir les restituer à hauteur d'enfant.
Et comment vous vous formez ?
Alors je me forme avec les formations du Collège des Bernardins. Lorsque j'habitais en région parisienne, j'avais eu la chance de pouvoir participer en présentiel à des formations du Collège des Bernardins sur l'Ancien Testament. Maintenant, depuis que je suis dans la région, j'utilise ces formations qui sont disponibles sur leur site en ligne et aussi les formations du Collège de France. Et je lis beaucoup les ouvrages de Paul Beauchamp et André Vénin, voilà, qui aident à avoir une vision assez globale des textes que je travaille pour les retransmettre.
Vous pouvez préciser peut-être pour nos auditeurs qui sont ces deux personnes que vous
décidez. Exégètes.
Des exégètes.
Voilà, exactement.
Oui. Alors, vous allez nous décrire la structure de vos ouvrages Zoom sur la Bible. Vous en avez apporté, vous avez apporté les 4 et dont ce petit dernier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes parties ?
Oui, Avec plaisir. Alors, ce sont des ouvrages qui sont faits, on va dire, en trois parties. La première partie, elle est dédiée non pas aux enfants, mais aux parents. C'est une page qui s'appelle « Dis-moi pourquoi ». Pour la petite histoire, lorsque je me suis lancée dans cette aventure d'écrire les ouvrages pour les enfants, j'ai commencé à faire tester la première histoire auprès d'un collectif de mamans. Des mamans de niveau cato 0 à 10, voilà, pour suivre mon idée d'avoir un ouvrage polyvalent. Et donc, il y a une de ces mamans qui n'était pas du tout cato qui me dit « Céline, c'est génial ton livre, enfin je vais pouvoir lire les histoires de la Bible à ma fille. Le problème est que je ne peux pas lui dire que le monde a été créé en 7 jours, je n'y crois pas. » Et là, je me suis dit, mais bien sûr, il faut répondre à ces questions que les parents n'osent pas poser. Finalement, qu'ils soient cathos ou pas, on peut avoir ces questions. Et si on n'a pas ces questions parce qu'on connaît la réponse, on peut manquer des mots pour pouvoir l'expliquer aux enfants. Donc, cette première page, qui est dédiée aux parents, permet de répondre à ces questions béaba et de mettre à l'aise les parents dans cette lecture face aux questions que les enfants pourraient leur poser.
Donc, après ces questions aux parents, on entre finalement dans l'histoire ?
Alors, pas tout de suite.
Pas tout de suite.
On entre d'abord dans la partie des repères, c'est-à-dire une carte et une frise qui reprennent chacune une dizaine de scénettes très connues des histoires de la Bible et qui permettent aux enfants et aux parents de se resituer dans l'espace de la Bible. Si je vous dis, par exemple, à la volée, la traversée de la mer Rouge, David et Goliath, la naissance de Jésus, l'arche de Noé, la tour de Babel, on a tout ça en tête. Maintenant, est-ce qu'on est capable de les mettre dans l'ordre ? Est-ce qu'on est capable de les situer à peu près dans un environnement géographique ? C'est pas sûr. Et ça contribue à cette idée de complexité de la Bible. Là où, en fait, finalement, c'est assez simple.
Il existe une chronologie.
Il existe une chronologie, ouais. Exactement. Et donc, je l'adresse sur le papier, joliment illustré, pour fixer les repères et permettre à chaque histoire de se fixer au milieu de ces étapes.
Alors, on arrive du coup à l'histoire à proprement parler que les parents peuvent raconter à leur enfant. Peut-être avant de nous décrire les histoires, vous pourriez nous donner les quatre titres de vos quatre ouvrages ?
Oui, tout à fait. Donc, l'idée de la collection est de traiter la Bible dans l'ordre, du début jusqu'à la fin. Donc, on commence par l'Ancien Testament.
Vous avez encore du travail alors ?
J'ai encore du travail. Quel beau travail ! Alors, le premier s'appelle « La création du monde ». On suit avec... La deuxième histoire, qui est l'histoire de Caïn et Abel. Ensuite, Caïn et Abel, c'est l'Arche de Noé. Et après l'Arche de Noé, c'est la Tour de Babel. L'intérêt des histoires, de le voir dans ce sens, c'est qu'on suit la chronologie et qu'on voit l'enchaînement de la vie des personnages. C'est-à-dire qu'Adam et Ève, on va les retrouver sur plusieurs albums. Ça ne s'arrête pas à la création du monde. Ils sont encore là un peu après. Avec Caïn et Abel, naturellement, ce sont leurs parents. Mais ils ont un petit troisième.
Voilà, vous faites durer le suspense là. Est-ce que vous êtes attaché à transmettre un message propre à chacun de ces récits ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une morale ou une leçon à tirer de ces récits ?
Alors mon idée n'est pas de transmettre de morale ou de leçon. J'ai presque envie de dire, ce serait le contre-pied. C'est-à-dire que dans l'idée que j'avais, moi, avant de reprendre mon chemin de foi, j'avais l'idée d'une religion très moralisatrice et très dure, avec un Dieu punitif. Et finalement, c'est quelque chose de très différent que j'ai découvert quand j'ai repris mon chemin de foi. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que je transmets les messages. C'est-à-dire qu'on est sur un Dieu aimant qui veut aider son peuple, qui l'accompagne à grandir, même quand celui-ci fait des pas de côté qui ne sont pas tout à fait ajustés, voilà, pour le dire gentiment. L'idée, c'est de transmettre ce Dieu d'amour et donc de rester très fidèle au message de chaque texte. C'est-à-dire que je n'ai pas donné mon interprétation de ce que je comprends des textes, je me fie à ce que je comprends de l'exégèse. Ce qui me bouscule moi-même d'ailleurs souvent sur les textes, puisque c'est l'idée d'ailleurs de l'exégèse et de ces textes de la Bible de toujours nous remettre en question. Donc je me remets beaucoup en question, mais ce que je livre, c'est vraiment ma compréhension de l'exégèse et ce n'est pas mon avis sur l'exégèse. C'est très différent.
Alors si on prend l'exemple de ce tome 4 sur la tour de Babel, comment vous présentez en fait l'histoire ?
Alors, la Tour de Babel est une grande surprise. Bon, chacun des albums a été une grande surprise pour moi quand je l'ai travaillé, mais celui-ci est une grande surprise. Très schématiquement, la Tour de Babel, mon idée avant de commencer à la travailler, c'était finalement Dieu va punir les hommes de leur audace d'avoir voulu créer une tour qui ira jusqu'au ciel pour le défier. C'est un peu mon idée. Et si finalement, cette intervention de Dieu n'était pas une punition, mais une protection ? La Tour de Babel, c'est une histoire qui se situe juste après l'Arche de Noé. Donc le peuple doit peupler la terre. Sur son chemin pour peupler la terre, il s'arrête sur la plaine de Chinéa et là s'interroge, tiens, et finalement, si au lieu de peupler la terre, on s'arrêtait là ? Si on construisait une ville ? Et si on construisait une tour pour aller jusqu'au ciel ? Tiens, oui, faisons-nous un nom. Construisons cette tour et cette ville. Alors là, dans cette image, en fait, ce faisons-nous un nom veut dire quelque part se créer. Et si on se créait nous-mêmes cette ville? Et là, le peuple veut devenir créateur à la place du créateur. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'une fois qu'il veut être créateur, il faut un dispositif pour monter ce projet gigantesque. Et pour ce projet gigantesque, il faut de la main-d'œuvre, oui. Il faut des briques. Et on se met finalement à se mettre dans une machine un peu infernale où on crée des briques, on construit des briques, on construit des briques, et on va construire, et on ne sait plus pour qui, pourquoi, dans quel but. On a perdu le sens. Et donc, Dieu regarde cet épisode, n'a pas très peur de la hauteur de la tour, puisqu'on dit même Dieu descend voir son peuple, donc je crois qu'il n'est pas très très effrayé par cette tour. Simplement, il est très effrayé de voir ce peuple qui est déshumanisé, qui n'a plus son identité. Les hommes ont perdu leur identité, leur particularité individuelle, pour se mettre dans un groupe où chacun va suivre finalement le même message, tout le monde, on va construire des briques et on va construire cette tour pour se faire un nom, comme si on était Dieu. Et donc là, Dieu voit le danger. Et par ce danger, il veut l'éviter pour les hommes. Et donc, il rapporte la diversité et il la ramène par les langues. Et donc, ainsi, il ramène ces langues différentes. Les hommes s'arrêtent de construire et la vie peut reprendre.
On va vous embaucher pour raconter des histoires aux enfants sur Radio Présence. Vous les racontez
avec
très,
plaisir,
très bien.
Mais j'en raconte beaucoup. Je vais dans les écoles, en fait, raconter des histoires. Voilà.
D'accord.
Donc, effectivement.
Après, c'est donc cette première page de questions aux parents et puis ces repères chronologiques. Il y a donc cette histoire à proprement parler pour les enfants. Est-ce qu'il y a une autre partie qu'on peut trouver dans le livre?
Il y a une partie bonus à la fin qui est vraiment pour les enfants. Alors, l'idée de mon ouvrage et de la collection, c'était de faire en sorte que les enfants choisissent ce livre le soir pour lire la Bible. Je ne veux pas que ce soit les parents qui disent « Allez, viens, on va lire une histoire de la Bible, c'est important pour toi ». Je veux que ce soit les enfants qui, dans leur bibliothèque, choisissent cette histoire. Et ce que j'ai remarqué avec mes propres enfants, c'est que dans les livres dans lesquels il y a une petite page de jeu à la fin, ils aiment bien. Donc, j'ai rajouté cette petite page de jeu et j'en profite dans cette page de jeu pour passer en même temps un message sur l'univers ou, on va dire, le mode de vie des croyants. Et donc, par exemple, si je prends le jeu de la tour de Babel, j'ai un petit jeu à la fin, un petit mémo, et puis un petit texte à trous. Et dans ce texte à trous, je suis très fière, j'ai réussi à placer, puisque la tour de Babel commence avec l'histoire de Noé, qui est le premier vigneron. Après le déluge, Noé plante une vigne. Et donc, le petit jeu à la fin rappelle cette vie du vigneron et de la vigne, donc un thème qui est très important dans la Bible. Il faudra retrouver dans le texte à trous le vin, fruit de la terre et du travail des hommes.
Donc ça fait un lien en plus avec cette phrase qui est reprise à la messe.
Exactement, voilà.
Donc, des quatre ouvrages à découvrir, et les auditeurs qui sont fidèles à la matinale pourront même participer au jeu de la matinale et donc gagner le tome 4 sur la tour de Babel. Donc, des ouvrages qui sont quand même à taille d'enfant.
Tout à fait. L'idée est d'avoir des ouvrages que les enfants aiment manipuler. Là encore, hein, dans l'idée de se dire, l'enfant veut aller chercher ce livre dans la bibliothèque et pas un autre. Donc on a un ouvrage à taille d'enfant, il aime le manipuler et il a la bonne taille pour le tenir sur les genoux le soir pour l'histoire du soir.
Un dernier mot sur l'illustration, puisque c'est quand même pas vous qui faites les dessins.
Et non, ça n'est pas moi qui fais les dessins exactement. Je travaille avec des illustrateurs et des illustratrices à qui j'ai demandé de travailler sur un mode de représentation réaliste, mais très travaillé. Donc chaque image est vraiment dans un relief. Les images sont vivantes, les textes sont vivants et les images sont vivantes elles aussi. On n'est pas sur des images à plat, on est sur des images qui parlent à elles toutes seules. C'est fait pour convenir aux enfants qui ne savent pas encore lire les mots, mais qui eux savent lire les images. Et donc par l'image, on peut lire l'histoire.
Merci beaucoup Céline Gauthier d'être venue de Montauban ce matin pour nous présenter le fruit de votre travail. 4 ouvrages qui racontent chacun un épisode de la Bible. Et puis merci en tout cas pour ce cadeau que vous nous faites, que les auditeurs pourront gagner dans le cadre du jeu du matin. Merci beaucoup.
Merci à vous.